VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Chérubin Gabi Dorsil et Tatiana Mousseau, bonsoir. Bienvenue à l'édition du 5 août 2015. Au sommaire ce soir.
L'extrême nord du Cameroun, une nouvelle fois la cible d'une attaque des islamistes de Boko Haram. Au moins 6 villageois tués et une cinquantaine de personnes enlevées.
Enlèvement en République démocratique du Congo. 6 imams tanzaniens ont été kidnappés à Rutshuru, dans la province du Nord Kivu. La communauté islamique a confirmé le rapt qui a eu lieu dimanche. Les ravisseurs ne sont pas encore identifiés.
Lutte contre Boko Haram. Le chef de l'État guinéen offre son soutien au Niger lors d'une visite à Niamey.
Nous sommes prêts à apporter toute forme d'aide qu'ils nous demanderont. Parce que ce qui a fait la faiblesse de l'Afrique, c'est le manque de solidarité. Lorsqu'un pays a un problème, les autres ne s'y intéressent pas.
Reportage à suivre de notre correspondant dans la capitale guinéenne-nigérienne.
Important discours du président américain sur l'accord nucléaire conclu entre l'Iran et le groupe des six.
So this deal is not just the best choice among alternatives. This is the strongest non-proliferation agreement ever negotiated.
Barack Obama appelle le Congrès à ne pas rejeter ce document, appuyé par de nombreux experts et la majorité de la communauté internationale.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Nouvelle attaque de Boko Haram au Cameroun. Au moins 8 villageois ont été tués et plus de 135 personnes enlevées dans la nuit de lundi à mardi dans l'extrême nord du pays par de présumés islamistes appartenant à l'organisation de Boko Haram. Les détails avec Salwa Jafari.
Une attaque fulgurante. Ils sont arrivés vers 1h du matin. À 3h, ils étaient déjà repartis. Un soldat raconte son arrivée à Tchakamari, ce village situé à 2 km de la frontière nigériane. Une place jonchée de cadavres, des maisons embrasées. Les témoins d'un village voisin reparlent d'une centaine d'otages, les membres du comité de vigilance du village abattus par les assaillants. Après une période d'accalmie, le groupe islamiste Boko Haram a repris depuis plusieurs semaines ses attaques dans la région frontalière de l'extrême nord camerounais. Des dizaines de personnes ont péri dans des séries d'attentats à la bombe commis dans la ville de Maora le mois dernier. Le Cameroun a annoncé le déploiement de 2000 soldats supplémentaires afin de renforcer la sécurité du Nord, 7000 hommes dans le cadre de la force d'intervention régionale à laquelle participent le Tchad, le Niger et le Nigeria. Contre les islamistes de Boko Haram.
République démocratique du Congo, 6 imams tanzaniens ont été kidnappés à Rutshuru dans la province du Nord Kivu. Le président de la communauté islamique à Rutshuru, El Hadj Ali Bacheka, a confirmé l'enlèvement. Eddy Isango.
Rolf Sizahera, président de la jeunesse du territoire qui est VOA Afrique à juin, explique que les 6 imams étaient en mission de prêche. El Hadj Ali Bacheka, le président de la communauté islamique à Rutshuru, qui cite Radio Okapi, a aussi confirmé la nouvelle. Deux autres Tanzaniens qui étaient avec les imams ont réussi à s'échapper pour rejoindre Goma, le chef-lieu de la province du Nord Kivu. Selon eux, l'enlèvement a eu lieu dimanche 2 août, alors qu'ils s'adonnaient à leur mission à Katugira, dans ces territoires de l'Est de la RDC. Les ravisseurs ne sont pas encore identifiés, mais la zone abrite aussi bien des milices locales Mai Mai que des rebelles rwandais des Forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR. Selon l'ONU, ces groupes s'illustrent notamment par des enlèvements, tueries et plusieurs autres exactions contre les civils et les voyageurs.
La Cour constitutionnelle du Burundi a proclamé les résultats définitifs des élections sénatoriales du 24 juillet, largement remportées par le parti au pouvoir. La voie est ainsi ouverte pour la prestation de serment de Pierre Nkurunziza. Les sénateurs étaient élus au suffrage indirect par les conseillers communaux, eux-mêmes élus le 29 juin. Un scrutin largement remporté donc par le parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Victoire donc de 33 sièges sur 36, s'y ajoutent 4 anciens chefs de l'État, sénateurs à vie. De par la Constitution.
Libye, naufrage, un bateau de pêche chargé de plusieurs centaines de migrants a chaviré aujourd'hui au large de la Libye et seulement une centaine de survivants peut être récupérés dans l'immédiat, a-t-on appris auprès des gardes-côtes italiens qui coordonnent les secours. Le bateau surchargé avait appelé à l'aide dans la matinée et s'est renversé à l'arrivée du premier navire de secours, selon la même source.
Tunisie, un lien entre l'attaque du Bardo et celle de Sousse. La police britannique a affirmé l'existence d'un lien entre l'attaque djihadiste contre le musée du Bardo à Tunis le 18 mars, qui avait fait 22 morts, et celle contre un hôtel de Port El Kantaoui près de Sousse le 29 juin. Cette dernière avait causé la mort de 38 touristes, dont 30 britanniques. Les deux attaques ont été revendiquées par le groupe islamique, État islamique.
Deux pasteurs sud-soudanais ont été condamnés par un tribunal du Soudan pour trouble à l'ordre public et création d'une organisation criminelle, mais ont été libérés. Leur période de détention provisoire couvrant la peine. Yat Michael et Peter Yen, arrêtés fin 2014 et début 2015 lors de visites à Khartoum. Les deux religieux étaient visés par 8 chefs d'accusation, dont incitation à la haine ethnique et espionnage.
Nouveau rebondissement dans l'affaire du lion Cécile, le procès de l'organisateur du safari au cours duquel le félin zimbabwéen a été abattu a été reporté à septembre à la demande de ses défenseurs.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Barack Obama a appelé le Congrès américain à entériner l'accord visant à restreindre le programme nucléaire de l'Iran, disant que c'est le plus important débat en politique étrangère depuis l'invasion de l'Irak en 2002. Lionel Gaïma.
Dans un discours à l'Université américaine de Washington, M. Obama a rappelé l'adresse faite en 1963 au même endroit par le président John F. Kennedy, où il avait appelé à des pourparlers avec l'Union soviétique pour la réduction des essais nucléaires. L'appel du président Obama intervient alors que le législateur américain examine l'accord du 14 juillet en prévision d'un vote de soutien ou de rejet en septembre. Le chef de l'exécutif américain a mis l'accent sur le vaste soutien obtenu par l'accord de Vienne au sein de la communauté internationale, à l'exception de l'État d'Israël. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a en effet vivement critiqué cet accord, y voyant une menace pour la sécurité de son pays et de la région. Il a rappelé à plusieurs reprises que le document négocié par les États-Unis, les quatre autres membres permanents du Conseil de sécurité et l'Allemagne empêchera l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Les inspections s'effectueront, a-t-il dit, sur une base permanente. Et sans cet accord, Téhéran aura le champ libre pour renflouer son arsenal et devenir, à coup sûr, un État plus dangereux, a prédit Barack Obama. Un sondage de l'université Quinnipiac révèle que 58% des Américains sont contre l'accord sur le nucléaire iranien.
Le Qatar a apporté son plein soutien à la campagne aérienne lancée par la Turquie contre les rebelles kurdes du PKK dans le nord de l'Irak, se démarquant de la Ligue arabe qui a condamné l'intervention turque. Les précisions de Timothée Donangbay.
Pour le ministère qatari des Affaires étrangères, la déclaration du secrétaire général de la Ligue arabe, Nabil Al-Arabi, n'avait pas été discutée avec les membres de la Ligue avant sa publication, selon l'AFP. M. Al-Arabi avait condamné mardi les frappes aériennes de la Turquie dans le nord de l'Irak et appelé Ankara à respecter la souveraineté de l'Irak, pays membre de la Ligue, les relations de bon voisinage et les accords conclus entre les deux pays. Le Qatar entretient de bonnes relations avec la Turquie, qui mène depuis le mois dernier une campagne de raids aériens contre les rebelles du Parti des travailleurs du Kurdistan, PKK, dans les montagnes du nord de l'Irak, où la guérilla kurde turque a trouvé refuge depuis des années. Par ailleurs, le chef de la diplomatie turque, Mevlüt Cavusoglu, a déclaré lors d'une rencontre en Malaisie avec son homologue américain John Kerry qu'Ankara va bientôt commencer à combattre le groupe État islamique dans le nord de la Syrie. Les États-Unis encouragent depuis longtemps la Turquie, alliée historique, à accentuer la lutte contre le groupe État islamique, ce qu'Ankara s'était montré réticent à faire jusque-là.
Au Yémen, les troupes restées fidèles au président déchu Mansour Hadi ont fait des progrès. On y reviendra tout à l'heure. Mais parlons de la réaction du président de la Commission européenne face au drame des migrations. Jean-Claude Juncker demande aux dirigeants de l'Union européenne de ne pas se laisser aveugler par la pensée populiste. Jacques Aristide.
Les difficultés pour faire accepter une solidarité entre les États ont déçu le patron de la Commission européenne. Jean-Claude Juncker le dit dans un entretien qu'il a accordé à l'AFP aujourd'hui. Les gouvernements européens se sont entendus le mois dernier pour réinstaller plus de 22 000 réfugiés venus des camps syriens, mais les ministres de l'Intérieur ne sont pas parvenus à s'entendre sur la prise en charge de 40 000 demandeurs d'asile arrivés en Italie et en Grèce pour aider ces deux pays dont les capacités d'accueil sont saturées par les arrivants. Quelques 188 000 migrants sont arrivés depuis janvier en Europe via la Méditerranée et près de 2 000 ont péri durant la traversée. Pour Jean-Claude Juncker, les gouvernements ont l'obligation d'agir. Quant à la situation à Calais, au nord de la France, où des milliers de migrants cherchent à passer en Grande-Bretagne par le tunnel sous la Manche, elle plonge Jean-Claude Juncker dans le désarroi. Une situation qui provoque des tensions entre les deux pays. À ce propos, la Commission européenne a proposé hier son aide à Paris et Londres.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Et nous passons à notre minute écho, un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs avec Timothée Donangmaye.
Le commerce extérieur du Bénin a été marqué par une hausse des exportations et des importations de biens et services, particulièrement en 2012 et 2014. C'est ce que révèlent les données du ministère béninois de l'économie, des finances et des programmes de dénationalisation publiés mardi à Cotonou. Selon ces mêmes données, les exportations de biens représentent en moyenne 17,3% du PIB et leur hausse est tirée par l'amélioration de la production du coton fibre et la bonne tenue de la demande extérieure de certains produits, notamment le karité, le bois et les noix de cajou. Les importations de biens qui représentent en moyenne 27% du PIB sont majoritairement constituées des produits alimentaires et des biens d'équipement. La Banque islamique de développement basée à Jeddah, en Arabie saoudite, vient d'approuver un financement global d'environ 65 millions de dollars, environ 32 milliards et demi de francs CFA, pour de nouveaux projets de développement dans trois pays africains, a appris l'agence APA auprès de la représentation à Ouagadougou. Deux financements portent sur l'agriculture. Le premier, d'un montant de 21,2 millions de dollars, est destiné au projet de développement de l'élevage au Sahel occidental, c'est au Mali, et le second, d'environ 30,1 millions de dollars, porte sur un projet alimentaire en eau et assainissement au Cameroun.
Merci Timothée Donangmaye pour la Minute Éco.
Place au sport à présent avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Tatiana.
Championnat de football camerounais, Garoua caracole toujours en tête.
Malgré un match en retard, le Coton Sport compte toujours 10 points d'avance sur son poursuivant. Le Coton Sport s'est imposé 2-1 chez l'Unisport Onkam. Le deuxième du championnat, New Douala Star, n'a pu faire que match nul 1 partout chez le Fauvu de Baham.
Le Bayern de Munich en forme.
Le club bavarois a dominé le Milan AC 3-0 à l'Audi Cup, ce traditionnel tournoi amical du début de pré-saison disputé à l'Allianz Arena à Munich. Le Bayern, tenant du titre, et le Real de Madrid se retrouveront ce soir. C'est une première depuis la demi-finale de retour de la Ligue des Champions en avril 2014. Les Merengues avaient battu le Bayern 4-0.
Football, rubrique transfert.
Le Paris Saint-Germain va frapper fort sur le mercato estival avec la signature imminente de l'ailier argentin Angel Di Maria. Le joueur filiforme surnommé Fideo, le vermicelle, s'est dit ravi ce mercredi chez nos confrères de beIN Sport de rejoindre le PSG. Il est attendu dans les prochaines heures à Paris pour signer officiellement son contrat après avoir passé avec succès sa visite médicale à Doha. L'ailier malien Bakary Sakho, libre depuis son départ de Wolverhampton en juin, s'est engagé pour 3 saisons avec Crystal Palace. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi le club anglais. Âgé de 27 ans, l'international passé par Saint-Etienne de 2009 à 2013 a ensuite brillé pendant 3 saisons dans les divisions inférieures avec les Wolves. Et puis l'attaquant italo-argentin Pablo Osvaldo, qui avait été libéré le mois dernier par Southampton, a signé au FC Porto pour 1 an, plus 2 saisons en option. Osvaldo, 29 ans, qui compte 14 sélections avec l'Italie, est appelé à prendre la succession du Colombien Jackson Martinez, lequel a quitté les Dragons pour l'Atlético Madrid.
Mon dieu de natation, Ledecky superstar.
Après ses titres sur 400 mètres et 1500 mètres, Kelly Ledecky a également décroché l'or ce mercredi sur 200 mètres. L'Américaine a pris les commandes dans la 3e longueur et s'est imposée en 1 minute 55 et 16 centièmes devant toutes les spécialistes du 200 mètres. l'Italienne Federica Pellegrini et l'Américaine Missy Franklin. Ledecky tentera de remporter l'or sur 800 mètres pour un quadruplé encore jamais réalisé dans l'histoire des championnats du monde de natation.
Merci Nicolas pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En compagnie de Tatiana Mosso, Chérubin Gabi Dorsil, Le Monde aujourd'hui, place au dossier du jour.
Burundi, la police a indiqué ce mercredi dans un point de presse que la situation sécuritaire est globalement bonne sur quasiment toute l'étendue du territoire, sauf dans les quartiers qui ont manifesté contre le troisième mandat. La police affirme que l'on observe des criminels armés lançant des grenades et tirant sur des policiers en service. Le ministère de la Sécurité publique précise pour sa part que 5 personnes ont été tuées depuis l'assassinat d'Adolphe Chirimarina et la tentative d'assassinat de Pierre Claver Bonimpa. On y arrive. Reportage à Bujumbura de notre correspondant Christophe Kourounziza.
Des tirs nourris sont observés chaque nuit dans bon nombre de quartiers de Bujumbura. Pierre Ngurikiye, le porte-parole de la police, l'a reconnu en constatant que le ministère de la Sécurité publique a déjà dénombré des attaques qui sont ciblées contre certaines personnalités de différentes formations politiques. Il a donné l'exemple de l'assassinat de l'ancien chef des renseignements Adolphe Chimirimana, de 3 personnes qui ont été tuées dans la province de Bujumbura rurale, ainsi qu'une personne qui a été massacrée dans le quartier de Musaga, au sud de la capitale. Pierre Ngurikiye indique également que de nombreux corps, sans préciser le nombre exact, ont été retrouvés sans vie, en plus de la tentative d'assassinat de l'activiste des droits de l'homme, Pierre Claver Mbonimpa. Ce dernier a reçu ce mercredi l'autorisation du procureur général de la République de pouvoir quitter le Burundi pour se faire soigner à l'extérieur du pays. Pierre Ngurikiye, porte-parole de la police, regrette et condamne tous ces crimes.
Chaque cas est suivi par une enquête rigoureuse de police qui devra aboutir à l'arrestation des auteurs et leur traduction en justice. Le ministère demande aux forces de l'ordre de doubler de vigilance pour renforcer les contrôles des personnes et des biens, particulièrement le contrôle des hommes en uniforme, pour constater qu'ils sont en mission commandée, car le groupe des criminels qui font ces attaques ciblées porte souvent l'uniforme des membres des forces de l'ordre.
Le porte-parole de la police a demandé à la population de rester calme et vigilante tout en continuant à dénoncer et à informer la police de toute détention illégale d'armes à feu et de tout signe pouvant perturber la sécurité. Rappelons que Human Rights Watch affirme que l'attaque contre Mbonimpa et l'assassinat d'Adolphe Nshimirimana sont des actes de provocation. L'ONG internationale demande aux autorités burundaises de prévenir tout acte de revanche, de mener des enquêtes impartiales et de traduire en justice les auteurs de ces crimes. Christophe Nkurunziza Bujumbura pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Burundi sur les ondes de la radio publique africaine 93.7 FM à Bujumbura et 107.1 à l'intérieur du pays et sur 89.4 FM au nord du Burundi.
La Guinée veut apporter son soutien à la lutte contre Boko Haram. C'est l'annonce faite ce matin à Niamey au Niger par le président guinéen Alpha Condé au terme d'une visite de 2 jours. Reportage de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
La visite a pris fin par une conférence de presse co-animée par les présidents nigériens et guinéens. Conférence au cours de laquelle les sujets relatifs aux élections en Guinée et au Niger ainsi que la sécurité ont été abordés. S'agissant de la sécurité, Alpha Condé a déclaré être venu à Niamey chez le chef d'État qui lui est le plus proche pour voir comment la Guinée pourra contribuer à la guerre contre la secte Boko Haram que mènent les États du Cameroun, du Tchad, du Niger et du Nigeria.
Nous sommes prêts à apporter toute forme d'aide qu'ils nous demanderont Parce que ce qui a fait la faiblesse de l'Afrique, c'est le manque de solidarité. Lorsqu'un pays a un problème, les autres ne s'intéressent pas. Or, tant que nous ne sommes pas solidaires, nous ne pourrons pas régler. Nous, nous sommes prêts en tant que Guinée à apporter toute la contribution à la lutte contre Boko Haram. Ça dépendra de ce que nos frères nous demanderont. Comme c'est Issoufou, dont je suis le plus proche d'abord, je suis venu le voir, c'est eux qui nous diront qu'est-ce qu'ils attendent de nous. Et vous pouvez être certain que ce qu'ils attendent de nous, nous ferons notre devoir. Le Boko Haram, ce n'est pas un problème du Nigeria. C'est pourquoi nous nous félicitons beaucoup de l'élection du président Bouhari, qui est d'abord un patriote et qui a vraiment la volonté non seulement de lutter contre Boko Haram, mais aussi de lutter contre la corruption. Nous, on est à la disposition de nos amis. Comme nous avons fait pour le Mali, nous sommes prêts à faire la même chose pour le Niger, le Nigeria, si nous le demandons.
Pour ce qui est des élections dans son pays, dont le chronogramme est contesté par l'opposition, le président guinéen écarte avec des arguments juridiques la possibilité d'un report.
Vous savez, la constitution guinéenne est très claire. Elle fixe une date impérative pour les élections présidentielles. Si les élections n'ont pas lieu à cette date, il n'y a plus de pouvoir légitime. Donc ce n'est pas comme les élections législatives ou autres. Nous, on a l'impératif d'organiser les élections le 11 au plus tard le 20, parce que sinon, il n'y a plus de pouvoir légitime. Donc ce n'est pas plus possible de reporter. Toutes les revendications qui touchent la loi doivent être faites au niveau du Parlement. Bien sûr, il y a beaucoup d'internet, il y a beaucoup de bruit, mais moi, je suis convaincu que l'élection se passera dans les meilleures conditions. Donc, la date est impérative, sinon il n'y aura plus de pouvoir légitime. C'est pourquoi on ne peut pas bouger les élections présidentielles. On est obligé de les faire à la date indiquée. Et je me suis battu pour la démocratie en Afrique et je ferai en sorte que la Guinée soit un modèle de démocratie.
Il faut noter que la principale conclusion de cette visite de deux jours du professeur Alpha Condé à Niamey, c'est la décision qu'il a prise avec son homologue Issoufou Mahamadou de mettre en place un cadre formel de coopération entre les deux pays. Une commission mixte nigéro-guinéenne de coopération va donc voir le jour dans les semaines à venir. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Au Mali, c'est Ousmane Oumarou Sidibé qui dirigera la commission Vérité, Justice et Réconciliation mise sur pied en janvier 2014. Le professeur d'université et cadre de l'opposition a été désigné à ce poste en début de semaine par le Conseil des ministres. Pour en savoir plus sur cette personnalité et sa mission, notre collègue Kadiatou Traoré a joint à Bamako l'analyste et journaliste Sada Diarra.
Bon, je pense que c'est une très bonne chose, dans la mesure où Monsieur le ministre Ousmane Oumarou Sidibé, elle n'est pas un inconnu dans le milieu politique malien. Non seulement c'est un homme politique, c'est un homme de droit, c'est un professeur qui a un parcours brillant et c'est quelqu'un d'intègre. Je pense que le président a eu la main heureuse pour nommer ce monsieur-là à ce poste-là. C'est l'homme qu'il faut à ce poste. Si on lui donne les moyens et si on lui donne les hommes et les femmes pour faire ce travail, il doit pouvoir s'en acquitter.
Pensez-vous que cette nomination répond aux attentes des Maliens?
Cela dépend. C'est quelqu'un qui peut, comment dirais-je, faire le boulot. Ceux qui ne le connaissent pas beaucoup, il y aura deux groupes. Certains vont avoir des avis mitigés, d'autres vont dire « Ah, il est opposant, il est ceci, cela ». Mais, comme on le dit, c'est au pied du mur qu'on reconnaît le maçon. Il faut lui faire confiance et il faut lui souhaiter vraiment les meilleurs vœux possibles, beaucoup de bonnes choses pour qu'il réussisse cette mission. Et je pense qu'il est à la hauteur et qu'il peut le faire.
Sachant très bien que M. Ousmane Oumarou Sidibé était membre influent de l'IRD, est-ce la preuve à dire que le président Ibeka a la bonne foi d'impliquer tous les cadres du pays à la prise des grandes décisions politiques et de développement du Mali?
Bon, c'est trop tôt pour le dire que le président a une réelle volonté d'impliquer tout le monde. Je crois que pour une mission particulière, spécifique, qui concerne la réconciliation et la justice, le président a trouvé l'homme idoine, qui est un cadre de l'URD. Mais le fait partisan, en 2 années de pouvoir du président Ibeka, le fait partisan a trop marqué, comment dirais-je, les affaires de l'État, la gestion des affaires publiques. Le népotisme et la partisanerie sont partis trop loin pour qu'on dise que la seule nomination d'un seul cadre de l'opposition est en train de renverser cette tendance. Nous souhaitons de tout nos cœurs que le président puisse prendre la mesure des choses et faire travailler tous les Maliens, peu importe la chapelle politique de ces Maliens-là. Que le fait partisan soit atténué, que le népotisme soit atténué, parce que tous ces gens-là qui ont des compétences, qui ont des expertises, ne l'ont pas eu comme ça. C'est le Mali qui a payé leurs études, c'est le Mali qui a payé, comment dirais-je, leur salaire, jusqu'à ce qu'ils accumulent ces expériences-là. Donc si on ne les fait pas travailler, c'est le Mali qui perd. Et il faut que le président le sache. Je souhaite qu'il se ressaisisse sur ce plan.
C'était le journaliste Sada Diarra depuis Bamako.
Jacques Aristide avec vous. Ce jeudi, Washington Forum braque les projecteurs sur Yali 2, le second sommet des jeunes leaders africains aux États-Unis. Pour le président Obama, la jeunesse est le moteur du progrès. Le programme Yali peut-il aider les jeunes leaders africains à faire une réelle différence sur le continent? Quelles doivent être leurs priorités? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Et c'est ce soir que prend fin le sommet Yali 2015 ici à Washington. Les 500 participants à ce programme du président Barack Obama pour les jeunes leaders africains sont réunis en sommet dans la capitale américaine depuis lundi. Hier, ils ont pu échanger avec des représentants de plus d'une centaine d'organisations américaines du privé et de la société civile. Bagassi Koura, notre envoyé spécial sur place.
Après les échanges lundi avec le président Barack Obama, les participants du Yali 2015 ont eu droit ce mardi à une session de networking qui leur a permis de rencontrer des représentants de plus d'une centaine d'organisations du secteur privé et de la société civile. L'idée des organisateurs, en l'occurrence les autorités américaines, c'est de permettre le partage d'expériences, d'opportunités en vue de nouer des partenariats. Heather Higginbotham est sous-secrétaire d'État américaine pour le management des ressources.
It's a really important part of the fellowship. One of the things that we learned last year when we did this expo is that the connections that the fellows made with businesses, with civil society, with NGOs, with others were very concrete and real, and things they can build on and take back home.
Pour Adama Kouyaté du Mali, cette rencontre a été une belle initiative pour lui. Cela permet d'identifier les organisations américaines avec qui coopérer une fois retourné en Afrique.
Il ne s'agit pas seulement de former des jeunes leaders africains. On les forme et on les envoie à la maison. Et s'ils n'ont pas de partenaire avec qui travailler, ça va être difficile. Donc cette exposition, je pense que ça rentre dans ce cadre. C'est une occasion qui permet aux jeunes, dès ici, de se faire des partenaires, de commencer à identifier quelles sont les organisations, quelles sont les ONG américaines avec qui ils peuvent avoir une relation de partenariat dans les jours à venir. Donc pour moi, c'est très important.
Papa Ali Gueye est musicien rappeur sénégalais. Il dirige une ONG de recyclage des déchets toxiques au Sénégal.
Les déchets, les ordures en plastique, nous les récupérons, nous trions et puis nous faisons avec les pneus et les gobelets de café tout bas. Du mobilier urbain. Ça veut dire des bancs que nous décorons après pour donner cela à la communauté. Donc j'ai eu pas mal de contacts que je compterai, n'est-ce pas, de rendre beaucoup plus, n'est-ce pas, fructueux d'ici peu, Inch'Allah.
Ce sommet présidentiel fait suite à 6 semaines d'études universitaires et de formation en leadership que les 500 boursiers ont reçus dans 20 établissements d'enseignement supérieur à travers les États-Unis dans le cadre de ce Mandela Washington Fellowship.
Ligne pour bokk nañ ko sam 5 defé am diam tegi djego am ndam rew mi sigi ci bép fan li mën ta ñak ñu fexé ko am ndaw ñi bayyi wali yani takku ligé daadi am njidi bayyi yelwani li fi nek
Bagassi Koura Yali 2015 pour la VOA.
Mën ta ñak yeni dal mën na ñak.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui. Lionel Gaïma a dirigé la mise en onde. Misha Dubinsky était à la console. Présentation, Chérubin Gabi Dorsil.
Et Tatiana Mosso. Merci Tatiana. Ainsi va Le Monde Aujourd'hui. On se retrouve sur Facebook et bien sûr, on est ensemble 24 sur 24 sur voaafrique.com. Les nouvelles dans un instant.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayegouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.